Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici venu notre rendez-vous du samedi matin, celui qui donne le là de nos week-ends de 9h15 à 10h sur RTL. Vous le savez, on essaie ici de vous rendre la vie plus douce, surtout en cette période si particulière que nous avons hâte de laisser derrière nous. Conso, jardinage, cuisine, aujourd'hui encore plein d'infos et d'astuces, rien que pour vous, place au sommaire. Le vol de nos données personnelles peut nous faire vivre un enfer. Alors que faire en cas d'usurpation d'identité et comment s'en prémunir? Oui, oui, ça existe, ça peut vous arriver. Tous les conseils d'Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Elles embellissent nos jardins et maisons et mettent des couleurs dans nos vies. Comment faire pousser et prendre soin des tulipes, narcisses et autres jacinthes, les fleurs à bulbes du printemps? Atelier jardinage avec Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. On le mange cru, principalement à l'apéro ou en salade, mais le radis, est-ce que ça se cuisine, dites donc? Tous les trucs et astuces de la cuisinière, auteure et journaliste Sonia Esguignan pour vous régaler. It wasn't me, ce n'était pas moi, c'est Shaggy qui commence justement en musique dans cette émission. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Soyez la bienvenue ce samedi matin, merci d'être avec nous tous les samedis d'ailleurs. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL et vous nous alertez chaque semaine. Concrètement, ça correspond à quoi une usurpation d'identité?
Eh bien c'est quand quelqu'un récupère assez d'informations sur vous pour se faire passer pour vous. Et en réalité, des usurpations d'identité, il y en a plein. Il peut y avoir l'usurpation d'identité d'un particulier pour lui extorquer de l'argent, ou encore l'usurpation d'identité d'un professionnel, d'une marque, d'une entreprise, pour abuser de la confiance de ses clients ou passer des commandes à sa place. Il y a aussi l'usurpation d'identité des stars. Là, les escrocs se servent de la notoriété des acteurs, chanteurs, animateurs, pour arnaquer leurs fans à travers les réseaux sociaux.
Effectivement, on connaît ça. Ça a lieu uniquement sur Internet, ça?
Non, quand vous êtes victime d'un cambriolage, d'un vol à l'arraché, il suffit qu'on vous vole votre carte d'identité avec une fiche de paie, par exemple, des documents confidentiels, pour vous retrouver avec des crédits sur le dos que vous n'avez jamais signés. Mais c'est vrai que maintenant, au vol classique, s'ajoute tout le canal numérique du style, vous êtes tout content de recevoir votre nouvelle carte bancaire ou votre nouvelle carte d'identité, donc vous la photographiez, vous la postez sur les réseaux sociaux, ou une fois, vous étiez tout content de partir en voyage à l'époque, donc vous aviez posté sur Internet la photo de votre passeport et du billet d'avion, et bien là, pour les cybercriminels, il n'y a même pas besoin de pirater quoi que ce soit, puisque c'est vous-même qui révélez les informations sur la toile.
Donc là-dessus, prudence, bien évidemment. Et puis après, vous avez les vraies cyberattaques.
Oui, qui touchent nos ordinateurs et nos téléphones portables. Vous savez, aujourd'hui, on a tout numérisé. Vous avez fait un scan de votre carte d'identité une fois, parce qu'on vous l'a demandé. Vous avez gardé un PDF de votre déclaration de revenus, où vous avez laissé tout ça sur votre ordinateur, et comme tout le monde, vous l'avez glissé dans un fichier que vous avez appelé carte d'identité ou permis de conduire.
Perso.
Voilà. Le pirate n'a qu'à rechercher dans vos fichiers ceux qui contiennent le mot pièce d'identité et il n'a plus qu'à se servir. Et les cybercriminels s'intéressent beaucoup aussi aux boîtes mail en ce moment. Le site cybermalveillance.gouv.fr constate une recrudescence de piratage des comptes mail. Les pirates fouillent votre courrier électronique. Ils prennent tout ce qui peut les intéresser. Parce qu'en y réfléchissant bien, on a toute sa vie dans sa boîte mail, la copie de la carte d'identité, un courrier de la banque. Et après, ils vont revendre à d'autres cybercriminels sur le dark web pour s'en servir contre vous.
Mais c'est fréquent ça?
Ah oui, malheureusement assez courant, c'est une arnaque qui est en croissance. La préfecture de police a recensé 300 000 plaintes de ce genre l'an dernier. C'est 100 000 de plus en 10 ans.
Et comment ils font les usurpateurs pour se procurer nos données personnelles? C'est quoi leur technique?
Eh bien Jérôme Billois, spécialiste en cybersécurité, a bien étudié le phénomène. Alors si vous allez sur des sites web un peu louches, des sites de commerce en ligne qui proposent monts et merveilles, de trop bonnes affaires, ou des sites de piratage de jeux vidéo, de séries, d'événements sportifs, ils sont souvent piégés. Les escrocs vous attirent là et vous demandent d'installer plein de logiciels pour regarder le film et ils prennent le contrôle pour fouiller votre ordinateur et récupérer vos données. L'autre arnaque du moment, c'est quand vous allez sur des sites de petites annonces entre particuliers. Vous pouvez tomber dans le panneau des fausses annonces de location de logement. L'escroc va dire, comme vous êtes très nombreux à être intéressés par cet appartement, qui évidemment est toujours très bien situé avec un loyer dérisoire, il vous demande d'envoyer le dossier complet, fiche de paye, copie de la carte d'identité pour gagner du temps par Internet. Donc il récupère toutes les pièces qui lui permettront de se faire passer pour vous.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec notre identité?
Alors le plus courant, ce qui touche les particuliers, c'est la prise de crédit à la consommation. Une fois que les escrocs impôts ont une copie de votre carte d'identité, de vos déclarations de revenus, de vos fiches de paie et une preuve de domicile. Ils vont aller dans une banque en ligne ou une banque classique et dire « Je veux un crédit de 40 000 euros. Je suis monsieur un tel, résident à telle adresse. Voilà mon RIB. » C'est sur ce compte-là qu'il faut virer l'argent. Donc l'adresse et le nom, c'est bien le vôtre. Mais le RIB où verser l'argent, c'est celui de l'usurpateur. Et une fois qu'il a récupéré l'argent, c'est à vous de rembourser le prêt.
Et alors, on voit aussi parfois l'usurpation d'identité, de personnalité. On est tous prévenus hein, dans le milieu. On nous dit de faire attention. C'est quoi le but recherché par les escrocs? C'est de la pub, non?
Eh bien, par exemple, l'année dernière, Michel Simès, que nous connaissons
évidemment
bien sur RTL, a été victime d'une usurpation d'identité. Des escrocs ont utilisé son image. Il s'est retrouvé en photo partout sur Facebook, dans une publicité, effectivement, pour une pilule amincissante, alors qu'il n'a jamais accepté de faire une publicité pour un régime, encore moins pour des pilules qui peuvent s'avérer dangereuses. Et le pire, c'est que des gens se sont retournés contre lui pour dénoncer ce régime amincissant qui ne marchait pas.
Ouais.
Un autre exemple, la FDJ, la Française des Jeux, vient de déposer plainte pour usurpation d'identité et escroquerie à la loterie. Là, les escrocs ont envoyé des mails comme quoi vous aviez gagné au loto, en demandant de renvoyer vos coordonnées, mais ils ont utilisé la photo de la patronne de la FDJ pour crédibiliser l'arnaque.
C'est fort et c'est très grave. Je suis en train d'y penser. Comment est-ce que je peux me rendre compte que je suis victime d'une usurpation d'identité?
Le problème, c'est effectivement, c'est qu'on s'en rend compte trop tard quand les problèmes arrivent. Ce sont les autres qui vous préviennent, vos amis sur les boîtes mail, les banques pour un crédit ou des insultes sur les réseaux sociaux. Il y a même un garagiste, c'est arrivé, qui s'est aperçu qu'il avait été victime d'usurpation d'identité quand il a reçu des saisies sur salaire de l'État parce qu'il n'avait jamais payé ses PV. En fait, quelqu'un roule avec ses papiers et il reçoit toutes ses amendes.
Et quelles en sont les conséquences pour celui qui s'est fait voler son identité? Qu'est-ce que je risque?
Alors, quand vous vous faites pirater votre compte Facebook, vous le signalez à la plateforme.
Classique.
Vous devez prouver que c'est bien vous la bonne personne. Ou si vous faites pirater votre boîte mail, vous vous excusez, vous reprenez la main, vous expliquez que ce n'était pas vous. Mais si derrière, il y a de l'argent en jeu ou votre réputation, il faut contacter tous les organismes qui vous courent après pour leur dire « non, c'est pas moi » et faire valoir les différentes voies de recours.
Ouais, donc c'est quand même pas simple, hein. c'est une sorte de parcours du combattant. Quels sont nos recours si ça nous arrive?
Alors, vous ne pouvez pas déposer plainte tant qu'il n'y a pas eu usurpation d'identité. Donc, dès que vous vous rendez compte qu'on vous a piraté votre boîte mail ou volé des papiers d'identité, il faut déposer une main courante au commissariat pour acter les faits administrativement. J'avais signalé les faits. Personne ne va aller chercher les auteurs. Mmh. Ils vont rechercher les auteurs seulement quand les escrocs auront utilisé votre identité. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez déposer plainte.
Alors, on a encore plein de questions à vous poser, parce que comment on va prouver que notre identité a été usurpée? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Et puis, qu'est-ce qu'ils risquent, justement, ces escrocs? On en parlera dans un instant avec vous, Armelle Lévy. Et puis après, on passera à un sujet peut-être un petit peu plus joyeux, pardonnez-moi, mais on parlera des bulbes, madame.
Ah,
oui, parce que la saison du bulbe du printemps. Et puis, on parlera des radis aussi, avec Sonia Esguignan.
On en a des radis.
Voilà, de l'information, des conseils, de la bonne humeur. C'est tout de suite dans Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
C'est le moment de planter ces jacinthes et autres plantes à bulbes du printemps. Pierre Nesman sera avec nous dans un instant. Vous aimez les radis? Oui, mais on les mange toujours à l'apéro. Mais il y a plein de choses à faire avec le radis. C'est Sonia Esguignan qui nous donnera la recette. Mais pour l'heure, on joue à qui est qui? Il ne vole pas que l'orange, ça peut aller beaucoup plus loin. Bien évidemment, l'usurpation d'identité, c'est notre sujet ce matin avec Armelle Lévy qui nous alerte parce que ça peut nous arriver à tous. Comment est-ce qu'on peut prouver que notre identité a été usurpée, Armelle Lévy? Qu'est-ce qui va prouver qu'effectivement ce crédit qui a été demandé à ma place ne l'a pas été fait par moi?
C'est tout le problème. Hein. La banque vous appelle un jour pour vous dire « remboursez-moi le prêt » et là, vous répondez « je n'ai jamais contracté le prêt, je n'ai jamais donné mon avis d'imposition ni ma carte d'identité ». Elle vous rétorque, eh bien prouvez-le, vous m'avez donné tous les documents. Qui me dit, moi, la banque, que ce n'est pas vous l'escroc qui avez ouvert ce faux compte, qui me dit que ce n'est pas vous le responsable de l'escroquerie?
Mais c'est l'enfer.
Oui, c'est pas facile. Donc, vous ne pouvez pas arriver comme ça en disant bonjour, on m'a usurpé mon identité. Vous devez le prouver et tenter de garder, et donc de rechercher le maximum de traces pour essayer d'estimer de quand ça date et depuis quand c'est arrivé.
Donc en plus, c'est à moi de mener l'enquête.
Ah,
donc c'est un enfer. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi?
Alors, vous avez quand même la loi avec vous. C'est inscrit dans le code pénal. L'usurpation d'identité est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et c'est encore plus 2 ans d'emprisonnement si l'usurpation est commise par le conjoint ou le concubin de la victime. Mmh. Et oui, parce qu'on a vu des cas, par exemple, une personne qui a inscrit son ex-petite amie sur un site de rencontre avec son numéro de téléphone portable et elle a reçu 200 coups de fil de jour comme de nuit.
Magnifique.
Ça, c'est de l'usurpation d'identité pour nuire à la tranquillité. Et c'est puni par la loi. Et après, quand l'usurpation d'identité se cumule avec d'autres faits, quand des escroqueries sont commises en votre nom, là on change de barème, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 350 000 euros d'amende.
Voilà, et il faut toujours se méfier, on l'aura compris. Comment est-ce qu'on évite une usurpation d'identité? Est-ce qu'il y a des trucs maintenant que vous nous avez informés?
Oui, alors déjà je rappelle qu'il y a un site officiel qui est fait pour vous orienter et qui va vous rappeler les bonnes pratiques, c'est le site cybermalveillance.gouv.fr, n'hésitez pas à le consulter. La première chose à éviter, c'est d'étaler votre vie en public sur les réseaux sociaux. Mmh. On en publie souvent trop. Donc, si on met le nez dans votre profil, on va trouver plein de choses intéressantes. Ensuite, il faut faire attention à tous les documents officiels qu'on a numérisés. Carte d'identité, permis de conduire, passeport, on l'a vu, hein, feuille d'imposition, fiche de paye, diplôme. Il ne faut pas les laisser n'importe où sur son ordinateur. Vous pouvez les placer dans des coffres-forts numériques, Digipost par exemple, un site géré par la Poste, ou ceux proposés par les banques et par les assurances.
Et vous parlez de coffres-forts, il y a aussi des coffres-forts de mots de passe, non? C'est bien ça?
Oui, c'est vrai. Ils vous permettent de stocker tous vos mots de passe. Et après, vous n'avez qu'un seul mot de passe solide, donc costaud à retenir, qui va débloquer tous les autres. Vous n'aurez même plus besoin de remplir à chaque fois le mot de passe. Ce sera automatique quand vous en aurez besoin pour naviguer sur Internet. Et enfin, comme il y a une recrudescence de piratage de boîtes mail en ce moment, n'hésitez pas à activer la double authentification. C'est un paramètre qui permet de recevoir un SMS sur votre téléphone quand quelqu'un essaie de se connecter à votre boîte mail. Si ce n'est pas vous, vous n'acceptez pas, le pirate ne peut pas entrer. La double authentification permet de limiter de 90% le piratage de votre boîte mail.
Et en fait, il faut de plus en plus se protéger dans notre monde aujourd'hui, Armelle Lévy.
Exactement.
Merci beaucoup. Vous étiez bien la vraie Armelle ce matin.
Oui, j'espère.
Avec tous vos conseils. Dans un instant, c'est le vrai Pierre Nesman qui va nous rejoindre. Vous aimez les bulbes?
Oui, oui. Vous pouvez présenter comme ça.
Vous savez que ça peut fleurir et ça peut être magnifique. On poursuit notre conversation dans Nous Voilà Bien. Merci Armelle. De Clara Luciani. Pierre Nesman, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
À chaque fois que j'écoute cette chanson de Clara Luciani, je pense à vous, Pierre Nesman, parce que vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. C'est quoi une fleur bulbeuse? Parce que je demandais il y a un instant à Armelle Lévy si elle aimait les bulbes. C'est vrai que c'est pas très glamour, mais fleur bulbeuse, c'est un petit peu mieux.
Alors oui, les fleurs bulbeuses, ce sont des plantes fleuries qui, pour développer leurs racines, leurs feuilles et leurs fleurs, vont puiser des éléments nutritifs dans un organe de réserve. Et cet organe de réserve, il est sous terre et on l'appelle un bulbe. Et puis ce bulbe, à la fin de la saison, quand la fleur finit de se développer, il va disparaître et il va produire un nouveau petit bulbe qui va progressivement grossir et qui va pouvoir fleurir l'année d'après. Et donc ce sont des fleurs qui peuvent revenir chaque année. C'est un cycle perpétuel.
Voilà, donc le bulbe, fait du bulbonnet, du petit bulbe, et puis en fait, on peut les garder longtemps, ça on y reviendra justement pour savoir comment les conserver. Il en existe une large palette de fleurs bulbeuses.
Alors oui, effectivement. Et actuellement, si vous vous baladez dans les jardins et dans les parcs, vous allez voir beaucoup de tulipes,
c'est
narcisses.
Le seul truc qui nous reste à faire en ce moment.
Oui.
On apprécie.
Alors effectivement, profitez-en justement pour regarder dans le détail tous ces massifs. Et à cette saison, on va trouver les fleurs bulbeuses. Les plus connues, ce sont les tulipes, les narcisses, les jacinthes, les couronnes impériales. Mais un petit peu plus tôt, à la fin de l'hiver, au printemps, il y en a qui poussent quand le sol est encore gelé, même souvent quand il y a de la neige. Ce sont les muscaris, les crocus, les personnages, les colchiques.
Dans les prés.
Dans les prés, évidemment. Et eux, ils vont pouvoir se développer grâce justement aux réserves qui sont dans leurs bulbes, qui sont contenues dans leurs bulbes.
Alors, les tulipes et les jacinthes sont vraiment les stars du printemps?
Absolument. Ouais. C'est les plus courantes. Les plus courantes parce que les tulipes, il y a une gamme de couleurs extraordinaire, une diversité dans les formes de fleurs. On va trouver des fleurs unicolores, des fleurs multicolores, bicolores. On va trouver des fleurs zébrées, marbrées. Et donc, c'est très, très intéressant. On les trouve associées aux pensées actuellement, aux myosotis. Mmh. Mais on peut aussi les cultiver en colonies libres dans une prairie ou dans une pelouse, un petit peu de manière sauvage. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de jardin, les tulipes peuvent tout à fait s'accommoder poser de la culture en pot sur un rebord de fenêtre, un balcon, une terrasse. Et puis, vous l'avez dit, Flavie, effectivement, il y a les jacinthes. Et la grande différence entre les tulipes et les jacinthes, eh bien, les jacinthes sont très parfumées. Elles diffusent une fragrance extrêmement puissante, que l'on soit au jardin ou à l'intérieur.
Et dites-moi, vous disiez que le printemps, c'est la saison de toutes les fleurs bulbeuses. Mais en fait, il y en a aussi en été ou pas ?
Eh bien oui, justement, il y a deux grandes catégories de fleurs bulbeuses. Vous avez les floraisons printanières, on vient d'en parler, et puis vous avez les floraisons estivales. Et là, vous connaissez tous le dahlia, les glaïeuls, les canas, les lys, les bégonias tubéreux. Ça, ce sont aussi des plantes qui ont des organes de réserve, mais qu'on va planter au printemps et qui vont fleurir en été, alors que les plantes bulbeuses du printemps, qui fleurissent au printemps, elles, on va les planter à l'automne.
Et dites-moi la question que tout le monde se pose ce matin, je vais oser vous la poser. Comment est-ce que je choisis un bon bulbe ?
Eh bien, plus il est gros, mieux c'est, Flavie.
Sans blague. Non, c'est vrai ?
Exactement. Mais oui, tout simplement, c'est facile à comprendre. Plus il est gros, donc plus il a de réserves nutritives, et plus il va pouvoir fournir de l'énergie pour la tige, les fleurs, les feuilles, et donc on aura des fleurs beaucoup plus belles. Donc quand on choisit des bulbes, eh bien, ils sont souvent conditionnés sous la forme de calibres, et on va choisir les calibres les plus importants. Mais il faut aussi regarder l'état du bulbe, est-ce qu'il a des blessures, est-ce qu'il a des taches de pourriture, et puis surtout, quand on achète des bulbes, alors je le dis, en automne pour les floraisons printanières ou au printemps pour les floraisons estivales, eh bien il ne faut pas qu'ils aient poussé. Souvent ils sont vendus dans des sachets. S'il y a des petites racines et s'il y a les bourgeons qui ont commencé à se développer, eh bien il vaut mieux ne pas les prendre car ils doivent être au repos total lorsqu'on les achète.
Bon, alors maintenant qu'on sait choisir notre bulbe, on va savoir comment le planter. Ce sera dans un instant avec vous Pierre Nesman. Et puis Sonia Esguillon, elle nous attend, elle nous parlera du radis. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bon, il va bientôt faire un temps à apéro. Alors ça, c'est bien parce qu'on aura tous des radis. Mais on peut faire d'autres choses. Et c'est Sonia Esguillon qui nous expliquera ça dans un instant. Mais pour l'heure, vous savez comment choisir un bon bulbe. Alors comment on le plante maintenant ? Au cœur. Allez, venez, on danse, Pierre Nesman. Et puis en dansant, vous allez nous expliquer justement ce temps des fleurs bulbeuses. On sait comment bien choisir un bulbe. On ne prend pas des petits rachitiques tout blessés, tout moches, avec de la moisissure et puis des petites racines qui ont commencé à se développer. Non, on choisit un bon gros bulbe, bien propre, bien beau et sans racines. Vous savez, on remarque en ce moment, il y a des tulipes violettes, bleues dans les parcs. C'est vraiment sublime. Est-ce qu'on peut trouver toutes les couleurs possibles en fait chez les fleurs bulbeuses et comment on sait ?
Alors oui, les plantes bulbeuses, la gamme la plus complète en matière de coloris, ce sont les tulipes. Après, dans les autres catégories, les coloris sont un peu plus restreints. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez raison Flavie, dans les parcs et jardins, il y a une tendance qui se développe, ce sont les tulipes de couleur violette, de couleur mauve, de couleur très très foncée. Vous savez que les jardiniers et les producteurs de bulbes, eh bien, ils ont un véritable mythe, c'est trouver ou produire la fameuse tulipe noire. Oh et là cette là. Tulipe noire, c'est la tulipe la plus sombre. Alors elle n'existe pas encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les croisements et les hybridations, on arrive à avoir des teintes qui sont très très foncées et je ne doute pas que d'ici quelques années on arrive enfin à avoir cette fameuse tulipe noire. Mais sinon dans les coloris tout est varié et tout est possible.
D'accord, et en fait c'est indiqué sur l'étiquette.
Oui, alors c'est toujours indiqué parce que c'est vrai que c'est pas facile à voir. Les bulbes, ils sont toujours un peu de la même couleur, de couleur brune. Et il faut vraiment se fier. Et là, c'est très important aussi quand on les achète, eh bien, d'avoir un étiquetage très précis pour être sûr d'acheter la variété que l'on souhaite et la couleur que l'on souhaite.
C'est facile à faire pousser ?
C'est très très simple. C'est très simple parce que, comme je le disais, le bulbe a des réserves nutritives et donc, quelle que soit la nature du sol, eh bien, la plante va pouvoir démarrer, pousser. Puis ensuite, elle va développer des racines, des feuilles, des tiges et des fleurs. Donc, c'est assez simple à faire pousser dans tous les sols. Il faut évidemment les placer en situation ensoleillée, à la lumière. Encore que certains bulbes, comme les muscaries, les personnages ou les crocus, vont pousser en situation mi-ombragée. Mais sinon, en général, il faut leur proposer une situation bien lumineuse et bien ensoleillée.
Et en intérieur, dans un pot, c'est possible, je pense même, enfin intérieur ou extérieur, mais est-ce que dans un pot, ils arrivent à bien vivre ?
Ah oui, complètement. C'est ça l'avantage du bulbe, et toujours pour la même raison. Ces réserves nutritives vont leur permettre de se développer un petit peu n'importe où. Et quand on n'a pas de jardin, pas de rebord de fenêtre, ou qu'on n'a pas de balcon, on va pouvoir effectivement les cultiver à l'intérieur. Alors, ils sont tous adaptés à l'intérieur. Les jacinthes, les crocus, les personnages, les petits muscaris, et bien sûr, les narcisses. Eh bien, il suffit tout simplement de les placer dans un récipient, soit avec du sable, ou dans un petit vase, des vases qui ont des cols un peu particuliers. On les place avec de l'eau. On les place à la chaleur et à la lumière. terre et en quelques semaines, eh bien, ils vont développer des racines. Le bourgeon va développer une tige et une fleur, bien entendu.
Et alors, justement, ça c'est tellement joli. Ces petits vases en verre, là, je trouve ça absolument sublime parce qu'on voit effectivement la plante qui naît. On peut associer différentes variétés dans un pot ?
Alors en pot, il vaut mieux utiliser une seule variété parce qu'elles ont chaque plante a des stades différents de développement, des hauteurs et des couleurs différentes. En revanche, au jardin, là, on peut se permettre effectivement de les associer beaucoup plus facilement qu'à l'intérieur.
Et dites-moi, vous nous disiez qu'elles se débrouillent un peu toutes seules, ces plantes. Alors c'est compliqué à entretenir aussi ? Il faut les arroser souvent ?
Absolument pas. Alors qu'effectivement, quand on les a cultivées dans un substrat, au jardin ou dans un pot, eh bien, il suffit de les arroser lorsque le terreau est sec en surface. Et puis évidemment, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'elles sont dans des petits vases avec de l'eau, ben là, il n'y a absolument pas d'arrosage. C'est une plante qui ne demande aucun entretien.
Elles ont une durée de vie limitée ou pas ? Parce que j'étais en train de penser à ça. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai des jacinthes chaque année. J'ai pas mal de bulbeuses à la maison. Mais le bulbe, je ne sais plus quoi en faire. Je sais que ça va repousser, mais je ne sais pas quoi en faire dans l'année.
Alors effectivement, on va les garder d'une année à l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont pérennes et durables. Ce qu'il faut faire, c'est très important, c'est de laisser la tige et le feuillage se dessécher parce que la sève qu'ils contiennent va reconstituer le nouveau bulbe. Et c'est ce nouveau bulbe que l'on va garder et qu'on va pouvoir réutiliser les autres années. Pour le garder, vous allez le placer dans une pièce obscure, au sec et au frais. Alors les plantes bulbeuses qui fleurissent au printemps, eh bien on va les hiverner pendant tout l'été. Alors c'est un peu particulier, hein, c'est un hivernage estival. Et puis à l'automne suivant, on va pouvoir les replanter pour qu'elles fleurissent. Et puis à l'inverse, les bulbes d'été, comme les dahlia qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien eux, ils vont être véritablement hivernés en hiver dans un local qui sera plutôt hors gel, frais et obscur.
Et donc quand je récupère mon bulbe, l'année d'après, je le replante comme je l'ai planté la première fois.
Exactement.
C'est dingue.
Et donc, effectivement, il s'est formé à côté de l'ancien bulbe qui a servi à alimenter les fleurs, un nouveau bulbe. On va laisser effectivement les feuilles se dessécher pour qu'ils se reconstituent, qu'ils soient gros, comme on l'évoquait tout à l'heure. Vous le conservez et vous le replantez l'année d'après et il repousse très facilement. Alors ce qu'il faut savoir, Flavie, c'est qu'il y a certaines plantes qu'on n'est pas obligé de sortir, celles qu'on n'est pas obligé d'extraire du sol. Par exemple, les crocus, les narcisses, les muscaries, on peut les laisser en pleine terre. En revanche, il y a deux bulbes très importants qu'il faut hiverner, qu'il faut extraire du sol. Ce sont les tulipes et les jacinthes.
Eh bien, merci pour toutes ces informations. Et grâce à vous, je ne jetterai plus mes bulbes. Et je suis sûre qu'on est très nombreux à le faire. Parce qu'en fait, on pourrait acheter juste des jacinthes une année et puis les garder d'une année sur l'autre.
Effectivement.
Grâce à vous, on fait des économies de bulbes. Merci beaucoup, Pierre Nesman.
Merci,
pour toutes ces informations. Je rappelle donc Rustica Pratique, l'émission également sur M6, Mission Végétale. Et puis votre nouveau livre, Mon jardin s'adapte au changement climatique, chez Delachaux et Niesley. On va parler d'une racine dans un instant. Je crois que c'est une racine. On va demander à Sonia Esgulian, justement. Vous aimez les radis ?
Absolument, j'adore ça.
Bon, bah, génial. Bah, vous savez qu'on peut faire plein de trucs avec des radis. Et bah, Sonia va tout nous raconter tout de suite sur RTL. Salut Pierre.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Petite bonne femme et le petit bonhomme. Ça va pas au paradis, ça va planter des radis.
On plante les radis avec les têtes raides. Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour Flavie.
C'est une racine le radis ?
Mais oui, une petite racine, alors bisannuelle parce qu'il y en a aussi d'hiver. Mais celle qui nous intéraisse, c'est celle de printemps.
Exactement.
C'est la plus fraîche, plus croquante.
C'est celle qu'on trouve en ce moment un peu partout. Dites-moi, ça ne sied pas à tous les palais le radis, hein, parce que ça picote un petit peu. Là. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'en raffole pas ?
Oui, alors j'ai une petite astuce. Alors souvent on dit que le radis pique quand il a un peu manqué d'eau. Ça c'est ce que les jardiniers m'ont raconté. Quand j'achète des radis, et surtout par exemple s'il y a des enfants à table, ce que je fais c'est que je prends les radis, je les trempe 3 secondes, mais vraiment 3 secondes, 1, 2, 3, dans de l'eau bouillante, et ensuite immédiatement dans de l'eau avec des glaçons. Eh bien, ce petit traitement, ça va énormément atténuer le piquant du radis. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, la cerise sur le gâteau, ça renforce en fait la couleur du radis. Donc quand il est un peu rose, eh bien, il devient rose flashy. Donc c'est carrément joli sur les recettes.
Oh, dis donc, ça y est, maintenant, on sait comment rendre le radis moins piquant. Dans un instant, vous allez nous dire comment les cuisiner, ce Sonia Esgulian. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Oh, ça pique ! C'est le radis ! On en parle tout de suite avec Sonia Esgulian.
C'est si bon, So I say to you.
C'est si bon, un petit radis. Bon, alors pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, sachez que vous pouvez enlever le piquant des radis. Vous les plongez dans de l'eau chaude. Vous comptez 1, 2, 3, puis dans de l'eau glacée avec des glaçons. Ils vont devenir plus vifs, plus rouges et ils auront perdu leur piquant. Et là, on pourra justement convaincre les palais les plus sensibles, je dirais, celui des enfants. D'ailleurs, Sonia Esguignan, est-ce que les radis piquants, c'est une espèce de radis particulière ?
Oui, il y a les fameux radis d'hiver, les radis aussi asiatiques, qui eux sont particulièrement vifs. Le radis noir, par exemple, c'est quand même, quand on le mange, on sait pourquoi on le mange, ça vivifie, quoi.
Mais le goût, il est très différent d'une variété à l'autre, alors.
Alors, pour les radis de printemps, beaucoup moins. J'adore, par exemple, sur le marché en ce moment, on voit les premiers bouquets de radis de toutes les couleurs. Donc, il y a, par exemple, les purple plumes, ils sont violets, il y a les Malaga qui sont tout ronds et d'un rouge très, très vif.
Vous parliez de bouquets de radis, il faut toujours les choisir en bouquet, on est d'accord?
Alors, c'est mieux de les choisir en bouquet parce que le gros indicateur, c'est la feuille. Quand on voit les fans de radis bien vifs, qui tiennent bien droit, eh bien là, on peut se dire que le radis est très frais. Alors, évidemment, les fans, on les mange. Il ne faut surtout pas les jeter. On peut en faire tout un tas de choses. Alors, les grands-mères en faisaient des soupes, c'est très, très bon. Mais on peut en faire des pestos. Moi, j'en fais aussi beaucoup. Je les mixe simplement avec un petit peu de bouillon de volaille. Et ensuite, je me sers de cette eau pour faire du pain, des fougasses. Alors là, du coup, le pain devient tout vert et très aromatisé. Donc c'est vraiment chouette. Pensez-y quand vous faites des petites recettes, par exemple des crêpes ou des pancakes, des choses comme ça. Vous pouvez utiliser les fans des radis et là, ça va donner un petit peu de peps à vos recettes.
Et j'y pense parce que je suis toujours dans le choix des radis. Là, ils se rabougrissent assez vite, en fait, les radis.
Eh bien, comme beaucoup de produits, ils n'aiment pas trop le frigo, en fait. C'est ça le problème. C'est quand on les achète, par exemple, dimanche au marché. Bon, alors ça tient dimanche, lundi, et puis mardi, ça commence un petit peu à partir en cacahuète. Ouais. Alors, quand ça part en cacahuète, eh bien, on leur fait un petit bain glacé, un peu comme les sportifs qu'on met dans des sortes de petits congélateurs. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh bien là, nos radis, on va leur faire le même traitement. On les prend, on les trempe, je ne sais pas, allez, 10 minutes, on ne va pas leur faire ça trop longtemps, Michette. On les trempe une dizaine de minutes dans un saladier rempli de l'eau avec plein de glaçons. Et là, ça va leur donner un petit coup de fouet.
Et ça repart, quoi.
Et ça repart.
Et alors, dites-moi, parce que là, on parle du radis cru systématiquement. Donc, on peut les mettre dans une entrée, dans une salade. Enfin, c'est tout ce que vous venez de nous raconter.
Oui, on les mince, on le râpe, on en met partout.
Mais voilà. On peut les cuisiner aussi, les radis?
Alors, le truc, c'est que ça ne cuit pas extrêmement longtemps. L'intérêt d'un radis, c'est quand même de garder aussi le croquant. C'est pas un navet. Par exemple, on fait cuire un poulet rôti ou un rôti de veau, par exemple. Eh bien, à la fin de la cuisson, on va mettre soit des petits radis entiers, soit des radis coupés en lamelles, mais vraiment 5-6 minutes avant la fin de la cuisson, et on va mettre ça tout autour du plat. Les radis vont avoir juste le temps de se ramollir à peine et de se gorger du jus de cuisson. Et la petite recette que je trouve formidable avec les radis qui sont cuits, alors pas vraiment cuits dans une casserole, mais cuits avec du vinaigre, c'est les pickles de radis.
Ah bah j'allais vous demander.
Ah non, mais là, les pickles de radis, c'est trop bon. En fait, vous préparez dans un bocal des radis. Alors, vous pouvez rajouter d'autres petits ingrédients, comme par exemple le gingembre qu'on aime beaucoup, les graines de coriandre. J'ajoute un petit peu de miel. Et on ajoute un très bon vinaigre. On n'est pas obligé de faire chauffer le vinaigre. Hein. On peut le mettre directement comme ça. Alors, essayez le vinaigre de miel, c'est assez formidable pour les pickles de radis. Et puis, on va laisser une quinzaine de jours. Alors, en général, on peut laisser 3-4 jours à l'extérieur. S'il fait trop chaud, on peut le rentrer au réfrigérateur ou dans une pièce un peu plus froide. Et au bout d'une quinzaine de jours, on va déguster ces radis. C'est absolument délicieux.
Et vous parliez tout à l'heure avec une viande. Avec quels autres aliments, en fait, les radis se marient-ils à la perfection ?
Ah ben moi, j'adore le tartare et l'œuf mimosa. Par exemple, quand je fais un tartare de poisson ou un ceviche, au dernier moment, je vais couper les radis en lamelles, en fait, très très finement avec une mandoline, et je vais les mettre dans la préparation. C'est très joli, ça apporte beaucoup de couleurs, et surtout, ça apporte du croquant à votre préparation. Et dans l'œuf mimosa, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est un œuf mimosa très léger. Je prends l'œuf, je le fais cuire, je le coupe en deux, je laisse le jaune à l'intérieur de l'œuf, et je vais prendre un peu de fromage blanc. plants que je vais mélanger avec du radis que j'aurai haché avec la râpe, vous savez, la râpe quatre faces, côté gros trou. Et en fait, par-dessus, je vais rajouter un joli petit dôme de radis tout rose. C'est un mimosa très ravigotant.
Voilà, et puis c'est plus light que, évidemment, le mimosa avec la mayo. Dans le radis, il y a les fans, vous nous en avez parlé, on peut faire plein de trucs avec les fans.
Alors, il faut imaginer que les fans, il faut pas les regarder comme une partie du radis dont on ne sait pas trop quoi faire. On se dit, le fan, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un petit peu à l'épinard. Donc déjà, toutes les recettes que vous faites avec un épinard, simplement des fans à peine sautés dans une poêle. Alors, vous imaginez que ça cuit, même pas la minute. Hein, parce que quand on peut les servir avec un morceau de poisson, on peut les servir même sur une poêlée de légumes. Alors, l'intérêt des fans, c'est qu'ils ont un goût... très vif, c'est intéressant parce que du coup on ne met pas d'autre chose, on ne met pas par exemple trop de poivre ou par exemple du gingembre qu'on aurait rajouté. On ajoute ces fans de radis qui vont apporter du peps à la recette.
Super, et alors le pesto?
Super fastoche. Les pestos, on peut faire plein de recettes. On peut imaginer des pestos avec du pignon, avec des noisettes, avec tout un tas de fruits secs. Je vous donne la base la plus simple et puis après, vous imaginerez ce que vous avez envie.
Ça marche.
En fait, quand je vais acheter une botte de radis, en général, avec une botte de radis, on a une bonne grosse poignée de fans de radis. Donc, on les nettoie très soigneusement parce que c'est plein de sable. Hein. Je ne sais pas, les radis, ça doit aimer les terres bien sableuses. Donc on les lave plusieurs fois et on met dans le dernier bain de lavage un petit peu de vinaigre pour éventuellement, s'il restait une petite bête ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ensuite, on va tout simplement mixer ces radis avec du parmesan. Donc pour une poignée, il faut à peu près 80 grammes de parmesan. Alors pas un parmesan trop vieux, trop dur, un parmesan plutôt assez jeune et moelleux. Sinon, on utilise de la grana padano, c'est très très bien aussi. Et on va ajouter 10 centilitres d'huile d'olive. Alors 10 centilitres, ça fait à peu près 7 cuillères à soupe bien pleines. Ça va donner un pesto bien onctueux qu'on va pouvoir utiliser pour les pâtes, pour faire au dernier moment, pour mettre dans un risotto, pour tout un tas de préparations pour un poisson vapeur. Et si on a envie de le rendre encore plus gourmand, ce pesto, on peut ajouter 10-15 grammes de pignons de pin ou alors des noisettes. Et c'est franchement très bon. Et on le garde une semaine au réfrigérateur, dans un bocal fermé, et on s'en sert comme on le sent à l'inspiration.
Et on peut le conserver combien de temps ?
Si on ajoute une petite couche d'huile d'olive, on peut le garder facilement 15 jours, 3 semaines. Et si on ne le met pas, on va le garder à peine une petite semaine au réfrigérateur.
Merci beaucoup Sonia Esgulian.
C'est un bonheur.
On sait ce qu'on va acheter aujourd'hui au marché. Merci pour toutes ces recettes Sonia. D'ailleurs, on retrouve toutes vos recettes sur votre page Instagram à votre nom, qui est une page très gourmande et que je suis avec assiduité. Merci beaucoup Sonia Esgulian. C'est l'heure des bisous, qu'on n'a plus le droit de se faire depuis un an, mais qu'on se fait quand même le samedi matin à la radio grâce à Philippe Catherine. Merci beaucoup Sonia Esgulian. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, séance de rattrapage sur l'appli RTL, sur nos réseaux sociaux pour les recettes, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine évidemment de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL bien évidemment. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.